De Gaulle était la bête noire des Américains, on le sait. Même s'il faut nuancer cette affirmation, en de grandes occasions, comme par exemple lors de la crise des fusées de Cuba, le général a choisi clairement son camp et les États-Unis ont su le reconnaître. Mais, c'est vrai, De Gaulle n'a cessé d'agacer les Américains et de provoquer leur incompréhension, sinon leur franche hostilité. Sa méfiance vis-à-vis des blocs et des idéologies, son indépendance sourcilleuse, son désir de doter la France de l'arme atomique ne pouvaient qu'exacerber la tension entre nos deux pays. Et récemment, un journaliste du Nouvel Observateur, Vincent Jauvert, a même pu faire paraître un livre intitulé tout simplement « L'Amérique contre De Gaulle ». Nous en reparlerons. Il était donc tentant de voir, de façon plus précise, ce que les Américains ont réellement tenté pour embarrasser cet allié encombrant, pour l'embarrasser ou peut-être même l'éliminer. Et M. X, lors de notre rencontre hebdomadaire, m'a proposé de répondre à une question qui n'a toujours pas reçu de réponse convaincante. En 1961, les généraux putschistes d'Alger, ce carteron de généraux, comme disait De Gaulle avec mépris, ont-ils été, oui ou non, encouragés par Washington? Encouragés et soutenus. L'histoire est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et elle dissimule encore bien des obscurités.
Tes rêves, je croise tes gens, je croise tes morts et des vivants. Le vent se lève en emportant de la poussière des ossements. Sous les mensonges, sous les tourments, la nuit s'étire, l'ombre s'étend. Noyé de sang, ne vois-tu rien venir devant? Qu'est-ce que l'on cherche? Qu'est-ce qu'on apprend? Où sont les pêches que l'on tend? Manteau de gloire, manteau d'argent, on va tout nu, pas tous les temps. J'en sens pour boire, j'en sens seulement. Dis le vide qu'on me ressent, monte de gloire. Poignée de sac qu'on voit filant, entre nos doigts ni rien pouvant. Sur son mirage va chevauchant. Tous les temps, chanson pour bois, chanson seulement, pour dire le vide.
que l'on ressent. Manteau de gloire, manteau d'argent, on va tout nu par tous les temps. Chanson pour bois, chanson seulement, pour dire le vie qu'on le ressent. Manteau de gloire.
France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
La 4ème République avait donné de bien mauvaises habitudes aux Américains.
Que voulez-vous dire par là ?
Eh bien, à l'exception notable de la courte période où Pierre Mendès-France a exercé le pouvoir, ils étaient un peu comme chez eux dans notre pays. Mmh. Et à de nombreuses reprises, ils sont intervenus directement dans nos affaires. C'était d'autant plus important pour eux que la France abritait alors le commandement de l'OTAN. Ouais,
vous n'exagérez pas un peu, là ?
Non, pas du tout. Nous vivions alors sous le parapluie américain et avec des subsides américains. Les services américains ne se privaient pas d'aider et de subventionner tous ceux qui, ouvertement ou non d'ailleurs, faisaient preuve d'anticommunisme.
Ouais, bah c'était la règle du jeu de la guerre froide. Hein.
Vous avez raison. Enfin, il y avait beaucoup de gens, et pas seulement à l'extrême gauche, pour penser que cette allégeance aux États-Unis était bien pesante.
Ouais. Vous voulez parler des gaullistes, par exemple ?
Bien entendu. Et les dirigeants américains n'ont pas vu d'un très bon œil l'accession au pouvoir du général en 1958.
Ouais, parce qu'ils le connaissaient bien.
Et que pendant la guerre, ils avaient eu de nombreuses preuves de son caractère ombrageux.
Ouais. Ils ont même tenté plusieurs fois de le mettre hors course. Hein.
Tout à fait juste. Mais enfin, inutile d'y revenir. Lorsque le général revient au pouvoir, c'est d'abord la question algérienne qui inquiète les Américains.
Mais pour quelle raison ? L'Algérie est encore française.
Naturellement, mais depuis le début du conflit, les États-Unis sont préoccupés par ce qui se passe en Algérie. Et pour plusieurs raisons.
Le pétrole.
Le pétrole et le gaz saharien, oui. Même si l'exploitation n'a pas encore vraiment commencé, on sait en particulier depuis les travaux de Conrad Killian que le sous-sol saharien est très riche. Et les compagnies pétrolières nord-américaines sont aux aguets. Il y a aussi la situation stratégique de l'Algérie.
Ouais, l'accès à la Méditerranée.
Exactement.
Ça, ouais.
Et le raisonnement de Washington est d'abord le suivant. Un jour ou l'autre, l'Algérie accédera à l'indépendance. Mais plus le conflit dure, et plus les rebelles algériens seront tentés de trouver un appui auprès du bloc de l'Est.
Ouais, parce que la puissance coloniale, la France, est membre de l'OTAN.
C'est ça. Et très tôt, les Américains n'ont pas hésité à prendre langue avec le FLN algérien et même à l'aider discrètement. Il faut par exemple se rappeler que le jeune sénateur Kennedy s'est prononcé pour l'indépendance algérienne et a demandé solennellement au gouvernement de son pays d'agir en ce sens en cessant de soutenir la France. À l'ONU, bien sûr. Alors quand De Gaulle arrive au pouvoir, les Américains s'interrogent.
Ouais. Mais ils ne savent pas ce qu'il va faire. Hein.
Ouais, ouais. Le général, il ne faut pas l'oublier, n'a réussi à se hisser au premier rang qu'à la faveur d'un mouvement insurrectionnel fomenté par les tenants du maintien de la France en Algérie.
Ouais. Par conséquent, on peut penser qu'il ne devrait pas être enclin à accéder aux revendications des rebelles du FLN. Hein.
Ah, c'est ce qu'on pense à Washington. Il est vrai que De Gaulle prendra son temps avant de parler d'autodétermination, puis d'Algérie algérienne.
Il faut d'abord convaincre ceux qui l'ont porté au pouvoir.
Les Américains sont pressés.
Toujours la peur de voir les rebelles se rapprocher de Moscou.
Naturellement, et déjà sous couvert d'équiper l'armée de la Nouvelle République tunisienne, ils ont indirectement fourni des armes à la rébellion algérienne. Il faut dire que de l'autre côté, les États arabes leur reprochaient d'aider matériellement les Français à travers les livraisons de l'OTAN.
Double jeu, donc.
Ou pragmatisme, comme vous voudrez. Les Américains n'ont jamais péché par idéalisme. Quand ils s'engagent, c'est toujours pour préserver leurs intérêts. Et ça les a conduits, nous en avons souvent parlé, à soutenir les régimes les moins démocratiques. Et c'est un euphémisme, enfin je m'éloigne.
Ouais, d'accord. Alors, De Gaulle inquiète, hein, c'est ça, tout de suite.
Oui, et à Washington, déjà, certains pensent qu'il faudrait renverser De Gaulle au plus tôt.
Un putsch ?
Pourquoi pas ? Ou bien une manœuvre de déstabilisation. Mais quoi qu'il en soit, le président Eisenhower refuse ce que préconisent certains de ses propres conseillers.
Ce qui ne veut pas éliminer son ancien compagnon d'armes.
Oui, je trouve surtout que l'opération est trop risquée.
Toujours le pragmatisme.
Évidemment. Les États-Unis, plus que jamais, sont vigilants et de plus en plus inquiets.
Ouais, à cause de la prolongation de la guerre, je pense.
Et parce que, visiblement, les dirigeants du FLN se tournent de plus en plus vers Moscou. En prenant d'ailleurs bien soin de le faire savoir à Washington.
Qu'est-ce qu'ils veulent, alors ? Obtenir un soutien américain ?
Ça me paraît clair, oui. Mais les États-Unis sont très embarrassés. Parce qu'ils ne peuvent quand même pas se ranger franchement derrière le FLN. Ce serait un véritable casus belli avec la France et donc la fin probable de l'OTAN.
Impensable.
Impensable, oui. Surtout en tenant compte du caractère du général de Gaulle qui considérerait une telle initiative comme une ingérence intolérable dans les affaires françaises.
Il faut en effet rappeler que l'Algérie était composée de départements
français. Vous avez
français,
tout à fait raison, oui. Ouais. Donc, je vous l'ai dit, l'inquiétude grandit à Washington. Et elle est attisée, paradoxalement, par des gens proches du général.
Ah, je comprends pas.
Mais si, c'est facile à saisir. Dans les cercles gaullistes et jusqu'au plus haut sommet de l'État, il existe de farouches partisans de l'Algérie française.
Ouais, des gens qui ne vont pas tarder à déchanter.
Bien sûr. Et ils se soumettront, finiront par rompre. Mais ces gaullistes, justement, veulent encore y croire. Et ils désirent infléchir la politique du général qui, dès le début de l'année 60, commence sérieusement à penser à un dialogue avec les rebelles algériens.
Ouais, infléchir la politique du général, mais comment peuvent-ils faire?
Eh bien, ils pensent simplement s'adresser aux Américains.
Mais avez-vous dit, les Américains n'ont qu'un objectif, c'est aboutir à une solution pacifique le plus vite possible.
C'est vrai. Et essentiellement éviter que Moscou ne mette son grain de sel dans cette affaire. Or, justement, ces farouches partisans de l'Algérie française viennent voir les Américains pour leur dire que le danger soviétique en Algérie est plus grand que jamais.
Plus grand que jamais, c'est-à-dire?
Il s'agit de leur faire comprendre que le FLN algérien est déjà dans les mains des Soviétiques.
Ouais, mais enfin, les États-Unis n'avaient-ils pas leurs propres sources d'informations?
Bien sûr que si. Leur service de renseignement était très actif en Algérie.
Oui, la CIA, bien
évidemment.
Sûr.
Ouais.
Donc ils savaient.
Oui, ils savaient surtout que si certains dirigeants FLN étaient effectivement attirés par l'orbite moscoutaire, d'autres, au contraire, étaient pro-occidentaux. Et d'autres encore étaient des islamistes, donc des hommes peu soucieux de s'acoquiner avec les communistes. Mais le discours de ces durs de l'Algérie française ne pouvait que trouver une oreille attentive chez certains hommes de la CIA qui ne rêvaient que d'en découdre avec Moscou.
Ouais. Il y a donc eu des contacts entre ces partisans de l'Algérie française et la CIA.
Incontestablement, oui.
Alors, ils se situent à quel moment?
Dans le courant de l'année 60.
Et qui a établi ces contacts?
Un homme a joué un rôle important dans cette affaire, Jacques Soustelle.
Qui était ministre du Général.
Oui, qui avait été. Soustelle a démissionné en février 60, après l'insurrection des barricades à Alger.
Oui, parce qu'il était en désaccord déjà avec le Général de Gaulle à propos de sa politique algérienne.
Oui, vous le savez, ce désaccord ne cessera de grandir puisque Soustelle finira par s'exiler et rejoindra ultérieurement l'OAS.
Et sur quoi débouchent ses contacts avec la CIA?
Il faut d'abord ne pas oublier que Soustelle est lui-même un ancien des services secrets de la France libre. Et on peut imaginer qu'il a encore des contacts avec ses homologues outre-Atlantique. En outre, le chef de poste du SDEC à Washington s'appelle Thiroux de Vaugely, un homme que Soustelle connaît très bien et qui a des contacts privilégiés avec la CIA.
Alors que veut Soustelle?
C'est simple. Il veut que les Américains prennent résolument le parti de l'Algérie française.
Pour contrer la menace soviétique?
Mais ce soutien passe évidemment par l'élimination du général de Gaulle. Et ça, manifestement, ça intéresse les Américains.
Oui, parce qu'ils ont assez du général.
Dès son arrivée au pouvoir, de Gaulle a clairement exprimé qu'il entendait s'affranchir de l'hégémonie des États-Unis sur le monde occidental. Et l'ancien président Eisenhower et le nouveau Kennedy, élu à la fin 60, se disent que, décidément, le général est un partenaire difficile.
Ouais, d'accord, mais enfin, entre le penser et agir, il y a une sérieuse nuance, non?
C'est vrai. Mais à la CIA, on n'a sans doute pas ce genre de pudeur. Et il est certain que dès la fin de l'année 60, on pense sérieusement ourdir un complot contre De Gaulle.
As you, full of hope, when you first took me in. The path that you led was straight to your bed. There's no couch to sleep in. And you showed me who I was running from. As if I had not known along. Oh, my old feet, they know this high street, stare like old friends. The flat on the ground, there's no further down, there's no cots to sleep in. So come in, leave them outside the door. Tear off the paper, tear off the carpet, off the floor. Now I know you're hurting, and I can't be there for you. Now I know you're hurting, and I can't be there no more. I had shoes full of holes when you first took me in. I had calluses not sore, and I like to keep them. So go turn the sheets, get back on the street,
There's nothing more I can bring to you. Think I'm scared of the door, afraid of the floor. Well, I'll go and walk right through, and I'll show you who I've been running from. It's the feeling of waking, and it's gone. And I know you're hurting, and I can't be there for you. I know you're hurting, and I can't be there no more. I had shoes full of holes when you first took me in. I had callous hands, not sore, and I like to keep them.
France Inter, Patrick Pénaud. Rendez-vous avec X.
L'hebdomadaire L'Express, alors dirigé par Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroux, affirme dans son numéro du 4 avril 1961 que Jacques Soustelle, ancien ministre du général de Gaulle, a rencontré aux États-Unis en décembre 60 de hauts responsables de la CIA. Et toujours selon ce journal, voici le langage qu'il leur aurait tenu. La plupart des dirigeants du GPRA sont pro-communistes ou marxiste. Ferhat Abbas n'est qu'une façade. Bourguiba est conscient du danger que représentent les révolutionnaires algériens communisants, mais sa lutte est désespérée car il sait que la victoire du FLN signifierait l'effondrement de son régime prétendu pro-occidental, comme l'effondrement de la monarchie marocaine. Les comptes rendus FLN sont pro-marxistes et anti-américains. Une Algérie indépendante ne fera que précipiter et hâter la chute des positions occidentales, non seulement en Afrique du Nord, mais sur tout le continent africain. Si la France s'en va, c'est le Kremlin qui s'installera. Les États-Unis doivent comprendre que l'Afrique du Nord est le dernier point d'appui contre la chute de l'Afrique entre les mains du communisme et l'installation de rampes de lancement soviétiques à Merzel-Kébir. Cela sera aussi la fin de l'Europe, car l'échec de la politique de De Gaulle amènera, tôt ou tard, un front populaire en France, le triomphe des communistes et la fin de l'OTAN. Il faut ajouter que dans le numéro suivant de l'Express, Jacques Soustelle a démenti avoir rencontré ces hommes de la CIA, mais sans convaincre la rédaction de l'hebdomadaire. Vous avez dit que la CIA envisageait de monter un complot contre le pouvoir gaulliste, hein, mais est-ce que vous voulez parler des dirigeants de la CIA ou bien de quelques francs-tireurs, enfin, comme on en trouve dans tous les services secrets?
Non, je pense qu'Alain Delos, qui était alors le patron de l'agence américaine et qui sera maintenu par le président Kennedy, a vraiment pesé tout son poids dans cette affaire. C'était un homme résolument anticommuniste et ne veut guère porter le général dans son cœur.
Un général qui va bientôt un peu flirter avec Moscou.
Flirter, quand même, un bien grand mot, mon cher. De Gaulle va surtout s'efforcer de mener une politique équilibrée entre l'Est et l'Ouest.
Une politique qui ne pouvait pas avoir l'assentiment de Washington.
Naturellement. C'est pour ça que Delos, qui était un dur, n'appréciait pas du tout le général. D'autre part, il a dû prendre très au sérieux les informations que Soustelle a communiquées à ses subordonnés sur le rapprochement entre le FLN et Moscou.
Est-ce que ça veut dire que le gouvernement américain était sur la même longueur d'onde que le patron de la CIA?
Ça, c'est peut-être un petit peu plus délicat.
Qu'est-ce que ça veut dire?
La CIA en particulier, grâce à la longévité des fonctions de son patron, Alain Delos, mais aussi à l'exacerbation de la guerre froide, était devenue un État dans l'État.
Ce qui signifie qu'elle pouvait agir de son propre chef.
C'est arrivé maintes fois, et le président américain, dans ces cas-là, a été mis devant le fait accompli et a dû couvrir après, comme on dit. Mais dans d'autres cas, beaucoup plus nombreux, le président était parfaitement au courant des agissements de la CIA. Enfin, il feignait de ne pas le savoir.
Pour ne pas être impliqué personnellement en cas d'échec.
Bien entendu, c'est ce qui va se passer au printemps 1961.
Ça la baie des cochons, ça.
Eh oui, la désastreuse aventure de la baie des cochons. Kennedy, nous l'avons vu ensemble, était parfaitement au courant des plans de la CIA. Et il les a encouragés.
Oui, mais d'ailleurs, il a fini par assumer personnellement la responsabilité du désastre.
Sans doute, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Enfin, toutefois, c'était de la poudre aux yeux, car pour l'opinion américaine, il est resté que ce jeune et courageux président avait été en réalité la victime des jusqu'au boutistes de la CIA.
Ouais, je veux bien vous croire. Mais dans l'affaire qui nous intéresse, là, Kennedy savait-il que la CIA préparait quelque chose contre le général de Gaulle?
J'en suis presque sûr. J'ajoute à sa décharge que presque tous les dirigeants se conduisent ainsi. Leur main droite feint toujours d'ignorer ce que fait leur main gauche.
Ouais, ils laissent à leur service secret le soin d'accomplir les sales
bonnes. C'est tout à fait ça. Enfin, rappelez-vous aussi l'affaire du Rainbow Warrior. Enfin, une fois, pardonnez-moi, je m'éloigne.
Très bien. Alors, répondez à l'une de mes précédentes questions. Comment va se traduire dans les faits l'intervention américaine?
Ici, il faut faire entrer en scène un personnage qui va y jouer un grand rôle, le général Schall.
Ouais, un des quatre putschistes d'avril 61.
Oui, je vais y venir. Schall est un aviateur. C'est lui qui, à la tête des forces armées en Algérie, a pratiquement anéanti les capacités militaires du FLN.
Le fameux plan Schall.
Oui, mais Schall estime que Paris a arrêté prématurément cette grande offensive. Il était possible, selon lui, de pacifier définitivement les départements algériens.
Il doit donc en garder de la rancœur.
Certainement. Mais son obsession, c'est la question des harkis, ces dizaines de milliers de supplétifs musulmans qu'il a engagés et dont il se sent responsable.
Que la France abandonnera d'ailleurs.
Dans des conditions tout à fait scandaleuses, oui. En tout cas, il ne fait nul doute que le sort des harkis compte dans l'engagement de Schall.
Ouais. Et politiquement, rappelez-moi, où se situe Schall?
C'est loin d'être un ultra. Il était même proche de Guy Mollet.
Donc plutôt à gauche.
Enfin, n'exagérons quand même pas. L'autre obsession de Schall, c'est le communisme. Pour lui, une Algérie indépendante verrait forcément l'installation de la marine soviétique à Marcel-Kébir.
Au moins, c'est clair, ça.
N'est-ce pas? Enfin, je vous le répète, le général Schall n'est pas un ultra. Il se méfie même de tous ces braillards d'extrême droite qui crient Algérie française à longueur de journée. Enfin, il faut le noter, Schall n'a pas pris part aux événements de mai 58.
Oui, par conséquent, il n'a pas l'impression, lui, d'avoir été cocufié par De Gaulle, comme Salan ou Massu.
C'est exact. Même si Schall a très mal supporté le discours que De Gaulle a prononcé à la fin de 1960. Un discours dans lequel, pour la première fois, le général a parlé d'Algérie algérienne.
Justement, à cette époque, quelle fonction occupe alors Schall?
Très bonne question.
Pourquoi?
Parce qu'elle donne une des clés de cette affaire.
Ah, je vous écoute.
Après avoir commandé avec succès en Algérie, Maurice Schall a été nommé à la tête du secteur Centre-Europe de l'OTAN.
Je commence à voir où vous voulez en venir.
À Fontainebleau, quartier général de l'OTAN, Schall est quotidiennement en contact avec ses homologues américains et occidentaux de l'Alliance. Et que constate-t-il? Il note que les généraux américains sont exaspérés par De Gaulle.
Oui, mais là, il n'est plus question d'Algérie.
Non, c'est la politique du président français qui est en cause. Sa farouche volonté d'indépendance. Songez qu'il refuse l'intégration des forces aériennes européennes, mais aussi l'installation du matériel atomique américain sur le sol français. Et puis, il y a la force de frappe française.
Ouais, très mal vu à Washington.
Oui, je vous en parlerai bientôt. Bref, pour tous ces officiers supérieurs occidentaux, le général De Gaulle paralyse le fonctionnement de l'OTAN, c'est-à-dire la défense de l'Europe face à la menace soviétique. Et Schall entend à longueur de journée ses récriminations. Des récriminations qui se traduisent par une seule phrase. Pour assurer la défense du monde libre, il faut se débarrasser du général de Gaulle.
Ouais. Et Maréchal est sensible à ce discours?
Sans nul doute.
Est-ce que les services américains jouent un rôle dans cette opération de propagande?
Ça me paraît évident, oui.
Mais est-ce que ça signifie que le général Schall est personnellement approché par des agents de la CIA?
Écoutez, franchement, je n'en ai pas la preuve, mais enfin, c'est probable. Car il est certain que parmi les interlocuteurs américains de Schall à Fontainebleau se trouvent des gens qui sont en relation directe avec la CIA.
Ouais. Alors, le général français se trouve donc sous influence?
Je le crois, oui. Et dès cette époque, Maurice Schall commence à penser lui aussi que la présence du général de Gaulle à la tête de l'État est nuisible. À cause de sa politique algérienne, mais aussi à cause de son hostilité vis-à-vis de l'OTAN. Et en décembre 1960, il prend une première décision lourde de conséquences.
Quoi?
Il démissionne de l'armée.
Et il quitte donc l'OTAN alors?
Naturellement. Et sa décision fait beaucoup de bruit dans l'armée. Schall y est en effet très populaire, très respecté. Et cette démission fracassante sera aussi l'une des raisons qui précipitera dans les bras des futurs putschistes bon nombre d'officiers supérieurs.
Ouais. Mais est-ce que cette démission fait partie d'un plan?
Non, je ne le pense pas, non. Schall n'a pas encore choisi la dissidence et la rébellion, mais il est sur le chemin. Et on va l'encourager à aller plus loin.
Qui la CIA?
C'est sûr. Sinon, comment expliquer que cet homme modéré et prudent va soudain accepter, 4 mois plus tard, de prendre la tête d'une rébellion militaire contre le gouvernement légal de son pays? À l'évidence, on lui a donné des assurances.
Washington ?
Oui, Charles ne serait pas engagé dans une affaire aussi hasardeuse sans biscuit. Mais ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que ceux qui l'ont encouragé à se rebeller ne tiendraient pas à leurs promesses.
France Inter, Patrick Penaud, Rendez-vous avec X.
Le général Schall avait-il reçu des assurances des Américains avant de se lancer dans son aventure putschiste? La réponse à cette question est toujours controversée. Voici par exemple ce qu'écrit l'historien anglo-saxon Alistair Horn dans son « Histoire de l'Algérie » publiée en 1980 chez Albin Michel. L'une des plus bizarres illusions des conspirateurs, surtout depuis les récentes révélations sur les activités tentaculaires de la CIA, concerne la possibilité d'une aide américaine. Il courait en France à l'époque des rumeurs persistantes sur un engagement clandestin des États-Unis. Sans aucun doute, durant la période où il était à l'OTAN, Schall, qui était populaire, s'était solidement lié d'amitié avec des généraux américains qui ne faisaient pas mystère de leur aversion pour ce que De Gaulle faisait de l'OTAN. Après une pléthore de scotch, ils allaient jusqu'à exprimer leur enthousiasme pour quiconque pourrait débarrasser la France de son turbulent président, ou au moins l'amener à changer de ton. Si l'on peut excuser Schall et ses compagnons d'avoir pris ces bavardages pour argent comptant, il convient de tenir compte de l'ambiance qui régnait alors 4 jours avant qu'on éclate la rébellion en Algérie. Le nouveau régime Kennedy, qui n'avait pas encore fait ses preuves, avait lui-même lancé son propre putsch, l'aventure de la baie des cochons contre Cuba et Fidel Castro. D'autres auteurs Jean-Jacques Servan-Schreiber, par exemple, sont au contraire persuadés que des agents secrets américains ont encouragé le général Schall et d'autres officiers à barrer la route au communisme en Afrique du Nord en s'opposant par la force à tout accord avec le FLN algérien, considéré par certains services américains comme déjà soumis à l'influence sino-soviétique. Même son de cloche, dans un éditorial du célèbre journaliste américain Joseph Alsop, qui dès le 25 avril 1961 souligne dans le New York Herald Tribune les liens qui existent entre ses compatriotes et les généraux putschistes. Quant à Geneviève Tabouy, elle n'hésite pas à affirmer que la participation des services spéciaux américains au putsch est un secret de polichinelle. Vous laissez entendre que les Américains ne vont pas tenir les promesses qu'ils ont faites au général Schall. Hein,
c'est exact. Ça. Pourquoi? C'est très simple à comprendre. La CIA a réussi un premier coup en persuadant Schall de se lancer dans l'aventure, et donc en mettant en difficulté le général de Gaulle. Et elle attend, avant de s'engager plus avant, de savoir comment les choses vont tourner.
Ouais, et assez vite, les choses, comme vous dites, vont mal tourner pour les généraux putschistes.
Hein. Mais tout à fait. Donc les Américains vont faire marche arrière. Et le président Kennedy, le premier, va faire savoir au général de Gaulle qu'il lui apporte naturellement son soutien, militaire au besoin. Un soutien que d'ailleurs de Gaulle rejettera avec mépris.
Ouais, le contraire m'eût étonné.
Vous imaginez, Washington venant au secours de Gaulle, impensable. Mais ne vous y trompez pas, si les putschistes d'Alger avaient gagné, les Américains auraient été les premiers à leur adresser un télégramme de félicitations.
Je le trouve bien partial quand même.
Non, je suis simplement aussi réaliste que l'ont été les Américains dans cette affaire.
Réaliste ou cynique?
À vous de juger. Enfin, je pourrais revenir un petit peu en arrière si vous voulez bien. C'est-à-dire avant même le déclenchement du putsch. La CIA ne s'est pas contentée d'influencer le général Schall, peut-être à son insu d'ailleurs.
Vous voulez dire que Schall ne se serait pas rendu compte qu'on essayait de le manipuler?
C'est très possible. En tout cas, pour être tout à fait honnête, il faut dire que Maurice Schall a toujours nié avoir eu le moindre rapport avec une puissance étrangère.
J'ai bien compris. Mais vous vouliez me parler de ce qui avait précédé le putsch, hein?
J'y viens, oui. Les gens de la CIA ne se sont pas seulement intéressés au général Schall, même si, à l'évidence, c'était la pièce maîtresse de leur dispositif en raison de ses opinions modérées et de sa popularité dans l'armée.
Alors, à qui d'autres se sont-ils intéressés?
Bien, les agents de la CIA ont suivi de très près tous les activistes qui s'agitaient en Algérie et en métropole. Il ne fait nul doute qu'avant même le putsch, ils connaissaient parfaitement le plan des insurgés.
Ça veut dire que s'ils avaient été de bons alliés, ils auraient dû avertir les autorités françaises.
C'est certain. Je peux même vous dire que Braun, le chef d'antenne de la CIA à Paris, qui était marié à une pied-noire, entretenait des contacts réguliers avec les factieux et envoyait régulièrement à Washington des informations qui faisaient état du mécontentement croissant des officiers français. Un mécontentement qui était, par ailleurs, réel.
Ouais. Et ces rapports ne pouvaient qu'encourager les Américains à prêter une oreille attentive aux futurs putschistes.
Bien entendu, d'autre part, un peu avant la mi-avril, c'est-à-dire une dizaine de jours avant le putsch, une réunion secrète s'est tenue à Madrid, où Salan et d'autres activistes avaient trouvé refuge.
Une réunion entre qui et qui?
Le général Salan était présent, les autres participants français appartenaient à la même mouvance, mais l'homme le plus important était un agent américain. Et il était chargé de dire à Salan que les États-Unis reconnaîtraient le gouvernement issu du putsch dans les 48 heures.
Mais cet agent parlait au nom de qui?
De la CIA, vraisemblablement. Mais encore une fois, la Maison-Blanche n'avait pu être totalement tenue dans l'ignorance. Enfin, j'ajoute que les États-Unis n'ont pas été les seuls à encourager les putschistes.
Ah bon? Qui d'autre?
Les services allemands.
Les services allemands qui étaient alors dirigés par le fameux général Gehlen.
Oui, un anticommuniste résolu et un ancien nazi qui s'était mis dès la fin de la guerre au service des Américains avant de créer le BND, c'est-à-dire le service secret de l'Allemagne de l'Ouest. Et le BND était demeuré, bien sûr, très lié à la CIA.
Ah oui. Donc Gehlen a aidé les putschistes, lui aussi?
Je n'ai pas dit aider, j'ai dit encourager. La nuance est importante.
Ouais, enfin, en tout cas, quand les putschistes d'Alger se lancent dans l'aventure, ils sont donc sûrs de bénéficier de solides appuis.
Oui, mais ils vont échouer. Et bien sûr, leurs appuis vont s'évanouir dans la nature.
Une question quand même. Est-ce qu'ils avaient, selon vous, une chance sérieuse de réussir?
Certainement. Mais les putschistes n'étaient pas suffisamment préparés et organisés. D'autre part, ils avaient sous-estimé la détermination du général de Gaulle et la résistance qu'allait opposer le contingent à leur coup de force. Enfin, il y avait Schall lui-même.
Que voulez-vous dire, la Schall?
Schall n'était pas un fasciste. À la différence de beaucoup d'autres conjurés, il voulait simplement mettre le FLN hors d'état de nuire.
Pour sauvegarder l'Algérie française.
Oui, c'est pourquoi il s'est opposé à ce que le coup d'État s'étende à la métropole. C'était pourtant le seul moyen de réussir.
Envoyer les parents en France.
Et surtout renverser de Gaulle. Tant que de Gaulle restait au pouvoir, le putsch d'Alger ne pouvait pas réussir.
Après le putsch, il y a eu l'OAS. Est-ce que la CIA, par exemple, a continué de soutenir les rebelles?
Bah, les relations se sont poursuivies, dans la plus grande discrétion bien sûr, et quelquefois par l'intermédiaire de mouvements américains d'extrême droite comme la John Birch Society.
Ouais. Donc toujours dans le but de se débarrasser du général de Gaulle ?
Bien évidemment. Le général Salan, chef de l'OAS, a eu de nombreux contacts avec les Américains. Il voulait essentiellement des armes. Son ambition, c'était de constituer une armée secrète comptant plusieurs dizaines de milliers d'hommes.
Et pire, il s'est adressé aux États-Unis pour équiper cette armée ?
Ouais, tout à fait, oui. Et la CIA a sérieusement envisagé d'accéder à sa demande. La manœuvre prévoyait qu'une dizaine de bateaux chargés de dizaines de tonnes d'armement appariraient au Portugal à destination de l'Algérie. Mais au dernier moment, la Maison-Blanche a annulé l'opération.
Pourquoi ?
Parce que Kennedy a réalisé que le jeu n'en valait pas la chandelle. Non seulement il doutait que l'OAS puisse parvenir à ses fins, mais il savait bien qu'une livraison d'armes de cette importance, si elle était connue des services français, entraînerait d'innombrables difficultés avec Paris.
Enfin, c'est quand même troublant que Washington ait pu envisager une telle opération.
Très troublant, oui. Et à la mesure de la haine que suscitait le général de l'autre côté de l'Atlantique.
Donc pour vous, c'est clair, hein, les Américains ont été impliqués dans le putsch et même les actions de l'OAS.
Oui, même si parfois on en a rajouté.
C'est-à-dire
ouais, il était quand même tentant pour les Soviétiques d'en profiter et de tenter à l'occasion une de ces opérations de désinformation dont ils étaient devenus les maîtres.
Ils l'ont fait vraiment.
Oui, dès le lendemain du putsch, la Pravda publie un article accusant des agents de la CIA d'avoir soutenu les insurgés.
Ouais, mais les Soviétiques auraient pu bénéficier de renseignements sûrs. Hein.
Non, je crois pas qu'ils aient eu la preuve de l'implication des Américains. Mais c'est drôle, ils accusent sans même savoir à quel point ils ont eu raison d'accuser.
Alors au fond, ce n'était pas de la désinformation.
Si, c'était de la désinformation, mais il arrive que le mensonge soit plus vrai que la vérité.
J'ai cité le livre de Vincent Jauvert, L'Amérique contre De Gaulle, au début de cette émission. J'en extrais ces quelques lignes particulièrement édifiantes. 3 mois avant le putsch, juste après le oui massif au référendum sur l'autodétermination de l'Algérie, la CIA est déjà au courant des complots qui se trament contre De Gaulle. Alain Dulles, son patron, écrit à Kennedy, qui vient tout juste d'entrer en fonction. Il raille en France une atmosphère pré-révolutionnaire. Les armées de terre et de l'air sont fermement opposées à De Gaulle. Au moins 80% des officiers sont violemment contre lui. Ils n'ont pas oublié qu'en 1958, De Gaulle avait donné sa parole d'honneur qu'il n'abandonnerait jamais l'Algérie. Il revient maintenant sur sa promesse et ils le haïssent pour cela. Que va-t-il se passer ? Le maître espion est formel et alarmiste. De Gaulle ne durera certainement pas s'il tente de laisser partir l'Algérie. Tout sera fini pour lui. Probablement, avant la fin de l'année, il sera soit déposé, soit assassiné. Autant d'arguments qui ne pouvaient qu'encourager Washington à s'intéresser aux putschistes. Le livre de Jauvert est paru aux éditions du Seuil. Enfin, face aux généraux putschistes, la réaction du général de Gaulle a été très ferme et sans aucune ambiguïté, c'est en tout cas ce qu'en a retenu l'opinion publique. Toutefois, le président français a été plus touché qu'il n'y paraissait. Et selon Bernard Tricot, qui fut son conseiller pour les affaires algériennes, de Gaulle a même envisagé le pire au tout début de la crise. L'ancien aux fonctionnaires en a fait la confidence à Patrice Gélinet dans son émission « L'histoire en direct » diffusée sur les antennes de France Culture. Je cite Tricot qui cite lui-même le général. Les généraux prendront le pouvoir. Ils seront très isolés en France. Les Français ne les aiment pas. Alors, il faudra que ces malheureux trouvent un appui à l'étranger. Alors, ils iront chercher de l'aide aux USA. C'est leur pente naturelle. Ce sont des militaires. Ils sont habitués à travailler dans le cadre de l'OTAN. Ils s'adresseront à leurs amis américains. Et alors, je ne sais pas ce que feront les Américains, mais si les Russes apprennent que les généraux putschistes, devenus les maîtres de Paris, se tournent vers les Américains, ça va être une crise internationale majeure. Les Russes ne peuvent pas tolérer que la France tombe sous le coup de généraux alliés des Américains. Alors que voulez-vous ? Il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, ça soit la guerre. Une guerre atomique, bien sûr.